En entendant cet évangile, le dimanche du bon pasteur. Hier soir, comme chaque veille de dimanche du bon pasteur, je dois bien vous l'avouer, je n'ai pas pu m'empêcher, en relisant ces textes et en me demandant ce que j'allais vous raconter ce matin, de me dire que vraiment, ça allait être ma fête. Alors, pas tant dans le sens où ce jour festif serait festif parce que j'appartiens à une communauté, comme vous le savez, qui est rangée sous le patronage éminent du bon pasteur, mais plutôt en ce sens qu'on entend lorsqu'on dit vulgairement « je vais lui faire sa fête ». Bref, je dois vous l'avouer, j'appréhendais ce portrait robot du pasteur idéal que je connais presque par cœur, qui est contenu dans l'évangile d'aujourd'hui, mais aussi pour partie dans l'épître, au regard duquel tout prêtre fait pâle figure, et j'en ai bien conscience, est votre serviteur le premier. Que voulez-vous ? Quand on est pasteur et qu'on parcourt ces magnifiques considérations de Jésus sur ce que doit être le pasteur, on se dit qu'elles ont vraiment quelque chose de subversif, ces réflexions du Seigneur, et que même il ne faudrait pas les mettre entre toutes les mains. En tout cas, pas entre les mains des fidèles qui se trouvent sous la charge du bon pasteur. Parce que leur vient l'idée saugrenue de comparer le modèle et la copie, de comparer le souverain pasteur et leur propre pasteur. Ce qui, avouons-le, est assez peu confortable pour le prêtre. Figurez-vous, comme comparaison, que vous êtes époux, que vous êtes épouse, et qu'on vous mette sous les yeux le portrait robot du parfait époux ou de la parfaite épouse. Je pense que vous laisseriez rapidement ce document en vous disant que tout cela est impossible. Il en va de même pour les parfaits enfants, les parfaits parents, etc. Voyez que je suis dans une situation un peu délicate. Et cependant, même si ce tableau du bon pasteur me met mal à l'aise, très honnêtement, ce malaise est bénéfique. Je crois qu'il est bénéfique parce qu'il stimule, parce qu'il exalte, parce qu'il excite le pasteur à faire mieux qu'il ne le fait, à se réveiller un peu de cette léthargie qui est acquise au fil des années sacerdotales. Je n'en suis qu'à 6, mais parfois je me lève avec l'impression d'être un vieux croulant de pasteur parce que je me suis mis dans des ornières, voilà, pastorales si vous voulez, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher, en voyant donc ce portrait du pasteur idéal, de me dire que le jour de mon ordination, j'ai été configuré parce que l'Église l'a voulu, j'ai été configuré physiquement, j'allais dire, ontologiquement, pour ceux qui ont un peu de lettres, ne vous inquiétez pas si ça ne vous dit rien, en tout cas j'ai été configuré réellement au Christ souverain pasteur. Donc j'ai, comme chacun de mes confrères qui doit se fendre d'un sermon sur le bon pasteur qu'il n'est pas aujourd'hui, j'ai en réalité viscéralement ancré en moi ce désir, cette aspiration qui ne vient pas de moi, qui vient de plus loin, qui vient de Jésus en moi, à être le bon pasteur de vos rêves. Alors quel est ce bon pasteur de vos rêves? Quel est le portrait idéal? Tant pis, je me risque à en décliner quelques facettes, quitte à ce que vous compreniez que je n'en suis pas vraiment de chacune de ces facettes. Le bon pasteur, nous dit Jésus, est celui que ses brebis connaissent et celui qui connaît ses brebis. Or, pour connaître tant soit peu quelqu'un, encore faut-il le fréquenter. Il n'y a pas d'amitié sans avoir partagé quelques repas en commun, saint Aristote. Aristote dit même qu'il faut avoir consommé une somme considérable de sel, le sel qui sert à alimenter les plats, c'est-à-dire qu'il faut avoir passé un nombre considérable de repas ensemble pour pouvoir se dire véritablement ami. Or, est ami celui qui connaît l'autre. Voilà donc qu'il faut que, pour être davantage conforme à ce vœu du Seigneur, que je connaisse mes brebis et que mes brebis me connaissent, mes bien chers frères, que ceux d'entre vous que je ne connais pas encore, parce qu'ils partent sur la pointe des pieds à la sortie de la messe, ou parce qu'ils arrivent sur la pointe des pieds également un peu en retard, mais comme moi aujourd'hui, donc je ne dis rien, eh bien il faudrait que, mes bien chers frères, nous puissions très concrètement partager un ou deux repas ensemble. Voilà, ça c'est la première chose. Vous voyez qu'en réalité c'est vous que j'excite. Il faut que nous puissions nous connaître et pour se connaître, partager quelques repas ensemble. Connaître dans la culture sémitique, c'est-à-dire dans la langue même de l'évangile, connaître ça veut dire aimer. Vous savez qu'Adam connut sa femme Ève et qu'il en acquit un fils. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, attention, pas de mauvaise compréhension de cela, il ne faudrait pas le comprendre crûment, mais il faut néanmoins, pour que le pasteur puisse connaître ses brebis, que le pasteur aime ses brebis. Et on nous dit que les brebis connaissent le pasteur, c'est-à-dire qu'il faut que les brebis aiment le pasteur en retour. Non pas d'un amour tout humain, que voulez-vous, peut-être certains d'entre vous me considèrent-ils comme quelqu'un d'un peu lourdeau, peut-être moi ai-je de temps à autre le sentiment qu'avec telle ou telle personne ça va être un peu compliqué. Peu importe, ce que demande le Seigneur Jésus, c'est que nous nous aimions, non pas d'un amour humain, mais d'un amour transfiguré, de cet amour même qui existe entre le Père et le Fils. C'est ce que dit Jésus. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Autrement dit, les relations d'amour qui doivent exister entre les brebis et leur pasteur doivent être des relations qui procèdent du même amour que l'amour qui existe dans la Trinité. C'est vous dire que nous sommes bien au-delà des convenances et disconvenances personnelles, des inclinations de goût, et que sais-je encore, on nous demande de nous aimer, et on nous en donne la possibilité, notamment dans le sacrement de l'Eucharistie, qui fait que nous sommes un seul corps, mes bien chers frères. Donc, je dois vous aimer, vous devez m'aimer, de cet amour qui règne entre le Père et le Fils, mais tout cela est possible grâce au sacrement de l'Eucharistie. Il ne doit pas considérer, autre aspect du bon pasteur, il ne doit pas considérer les brebis dont il a la charge comme les siennes. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il serait terrible, il serait redoutable, ce serait se servir dans la caisse, véritablement, que le pasteur commence à exploiter les brebis, à aller d'abord vers celles uniquement qui lui plaisent spontanément, et qu'il les considère comme siennes. Vous devinez bien, parce que vous avez déjà eu affaire à des prêtres, qu'en entrant dans l'intimité de vos âmes, par le sacrement de pénitence, ou par la direction spirituelle, ou encore plus simplement parce que vous avez confiance dans vos pasteurs, et que vous ouvrez votre âme, et parfois les blessures profondes qui y sont, vous imaginez bien que le pasteur a un pouvoir assez puissant, et qui peut devenir pernicieux s'il n'y prend garde. Nous devons, nous autres pasteurs, vivre d'une chasteté sacerdotale. Chasteté qui n'a rien à voir avec la chasteté, encore que avec la chasteté de l'ordre de la sexualité, mais chasteté du cœur, une garde du cœur. Nous devons prendre garde et vous devez nous y aider. Parce que parfois, les pasteurs, malheureusement, sont un peu appesantis par l'appel des fidèles, qui ne se rendent pas trop compte qu'ils, petit à petit, emprisonnent le cœur de leur pasteur. Il faut faire attention que le pasteur ne considère pas les brebis comme siennes et que les brebis ne s'accaparent pas le pasteur. Père, dit Jésus à son père, qui est le modèle des pasteurs, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. C'est ce qu'il peut lui dire fièrement, parce qu'en toute vérité, après avoir partagé avec eux la première messe, la dernière scène. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés et je te les rends, Père. Eh bien, le prêtre doit pouvoir chaque soir dire la même chose au Père éternel. Mon Père, ces brebis que vous m'avez confiées, j'ai fait ce que j'ai pu, elles ne m'appartiennent pas, faites donc ce que vous voulez de moi. Il est, ce pasteur, dans quelques versets qui précèdent l'évangile d'aujourd'hui, il est décrit comme la porte. Vous savez que Jésus ne se considère pas seulement comme le pasteur, il est la voie, la vérité, la vie, il est le pain vivant descendu du ciel et il est la porte. Cette expression de porte, on peut la trouver un peu étrange. Je trouve qu'elle est parfaitement adéquate pour décrire le travail du pasteur. Le pasteur est cette porte entre la terre et le ciel. Il est le pontife, sans se prendre pour je ne sais qui. Il est le pontife, le pont entre la terre et le ciel. De sa relation aux brebis dépendra pour une large part la relation de ses brebis avec le Père éternel. Si cette porte est grinçante, comme elle l'est souvent pour ma part, si cette porte est trop étroite, si cette porte est à moitié fermée, si c'est parfois une porte de prison qui est en face de vous dans la personne de votre pasteur, évidemment, vous irez plus difficilement vers le Père éternel. Vous ne voudrez pas emprunter cette porte et pourtant cette porte est nécessaire. C'est ce que dit Jésus, qui n'entre pas par cette porte, n'entre pas dans le royaume. Voyez donc le sérieux de la fonction sacerdotale et l'exigence à l'égard des pasteurs qui doivent être la porte huilée, la porte ornée, la porte largement ouverte qui permettent aux fidèles de s'élever vers le Père éternel. Autant vous dire que, voilà, je n'ose pas trop me comparer à cette porte qu'est le Seigneur Jésus. Encore un autre indice, il donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas, nous dit Jésus ailleurs, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. pour ses amis, pardon. Vous voyez que, décidément, je suis obsédé par vous, les brebis. Il y a donc à donner sa vie pour les brebis. Mais donner sa vie très concrètement. Le Seigneur Jésus vient de nous en faire la démonstration il y a quelques jours. C'était le vendredi saint. Et il en avait averti ses brebis la veille. Il faut que je donne ma vie pour vous. Alors, mes bien chers frères, moi également, je suis tout à fait conscient qu'il me faut donner ma vie pour vous. N'ayez pas peur, comme c'est parfois le cas, d'user et d'abuser de vos prêtres. Vos prêtres ne sont pas à la hauteur, vos prêtres n'ont pas les conseils opportuns. Peu importe, vos prêtres ont le pouvoir des clés. Vos prêtres ont, c'est par pure miséricorde qu'ils ont cela, la possibilité, en livrant véritablement leur vie pour vous, en passant leur temps avec vous, ils ont la capacité de vous régénérer. Parce qu'ils agissent in persona Christi. C'est Jésus-Christ en eux-mêmes qui vient à votre rencontre, qui vous touche et qui vous sauve. N'ayez donc pas peur de faire venir le prêtre, même tard le soir, pour un sacrement quelconque d'extrême onction, si vous devez recevoir l'absolution, peu importe, n'ayez pas peur, je vous en supplie, nous sommes peu de prêtres en France et apparemment de moins en moins, qu'importe, le Seigneur pourvoira, et grâce à vos prières, tout se passera mieux dans quelques années, mais n'ayez pas peur de ce sacrifice de vos prêtres. Ne demandez pas tant à vos prêtres de se ménager. Ça commence à bien faire et de temps en temps, ça constitue une tentation pour un prêtre qui se trouve un peu fatigué, qui est déjà un peu nombriliste parce que les choses ne vont pas comme il le voudrait. Et voilà que ses brebis viennent lui dire « Mais reposez-vous, monsieur l'abbé. » Reposez-vous, on se reposera au ciel, mes amis. Donc n'ayez pas peur d'user et d'abuser. Permettez à vos pasteurs de donner leur vie pour vous. Le pasteur, enfin, parce que je pourrais comme ça, à l'envi, multiplier encore les caractéristiques de ce que doit être un pasteur, le pasteur doit savoir, je crois que c'est fondamental, qu'il est lui aussi une brebis. Eh oui, vous savez peut-être que dans le droit canonique, on appelle fidèles et les clercs, ceux qui ont reçu les ordres, et les laïcs. Je suis donc tout comme vous infidèle. J'ai tout comme vous à suivre des pasteurs. Je dois tout comme vous passer par une porte qui m'amène au ciel. Je ne me suffis pas à moi-même. J'en ai la ferme conviction, je le sais parfaitement, mais il faut de temps à autre que vous me permettiez de le concevoir plus profondément. En ayant, c'est vrai, cette réserve, ce respect extérieur à l'égard du pasteur que je suis, mais en ne me mettant pas non plus au pinacle, en ne permettant pas que je sois dans une sorte de petite, comment appelle-t-on cela, de niche à statut. Alors, je sais que c'est pas votre genre, mais parfois cela arrive, on demande au prêtre de ne pas faire d'efforts, on fait tout à sa place, c'est vrai que c'est Jésus qu'on reçoit, mais enfin, il faut se calmer. Le prêtre est lui aussi infidèle. Et il faut que le prêtre puisse en avoir la ferme conviction à chaque instant. Aidez-moi à l'avoir, cette conviction. Eh bien, chers frères, on dit parfois qu'on a les pasteurs qu'on mérite. Alors, je crois que cet adage-là vaut totalement, en grande partie dans la vie politique, notamment dans la vie politique d'un pays qui est prétendument au moins démocratique, c'est-à-dire où une bonne partie des gouvernants sont élus par nous. Mais je crois que cet adage est totalement faux dans la vie de l'Église. Le pouvoir ne vient pas d'en bas, ou plutôt les charges ne sont pas confiées par élection, mais le pouvoir vient d'en haut. Vous n'avez pas choisi le pasteur qui est le vôtre aujourd'hui, je le sais. Donc, ce n'est pas de vos mérites, ce n'est pas votre conduite qui vous mérite un prêtre. Je crois que si ce principe devait prévaloir dans l'Église, si la qualité du pasteur devait dépendre de la qualité de ses fidèles, le village d'Ars, qui était dans un si misérable état spirituel avant que l'abbé Jean-Marie Vianney y mette les pieds, n'aurait jamais eu comme pasteur le patron des curés. Plus largement, plus profondément, si la qualité du pasteur devait dépendre de la qualité des brebis, jamais l'humanité enfoncée dans le péché n'aurait eu cette grâce que le Fils de Dieu, le parfait, le souverain pasteur, vienne sur cette terre en qualité de souverain berger. Non, ce ne sont pas les brebis qui doivent faire le premier pas, mais c'est le pasteur. J'en suis bien convaincu. Est-ce à dire que vous devez avoir un rôle passif ? Bien sûr que non. Et là-dessus, je voudrais, pour terminer, vous donner deux ou trois recommandations. Permettez-moi, je suis pasteur, vous êtes les brebis. Vous devez écouter la voix du pasteur. Alors, je me permets quelques suggestions. Premièrement, évidemment, vous n'êtes pas passif parce que vous devez prier, non seulement pour la communauté d'ici, mais vous devez prier particulièrement pour vos pasteurs. Vous devez accueillir les pasteurs, mais ça, vous le faites déjà. Ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'opportunité de le faire parce que je les impressionne, parce que je ne sais quoi. N'ayez pas peur, ouvrez-moi la porte, je viendrai et nous passerons un bon moment. Mais il y a encore un autre rôle à jouer lorsqu'on est une brebis, un autre rôle très actif, c'est d'aller chercher les brebis auxquelles le pasteur n'a pas accès par lui-même. Que voulez-vous, les journées n'ont que 24 heures, les semaines que 7 jours. Il est très difficile pour un pasteur de faire le tour des environs. Je n'ai pas le loisir, je ne peux pas matériellement me démultiplier et aller rendre visite à toutes les personnes que vous connaissez et qui n'auraient pas accès, naturellement, je veux dire, à un pasteur. Là, vous avez un rôle capital à jouer, celui, encore une fois, de rameuter les brebis qui sont sur le bord du chemin, qui sont sur le bord du troupeau, pour les ramener dans le troupeau. Nous avons besoin de votre coopération sous cet angle-là, mes frères, et je crois qu'il faut cesser de se plaindre que les pasteurs suprêmes, que sont les papes et les évêques, ne fassent pas leur travail. Peu importe, Dieu juge et Dieu seul juge. Vous autres fidèles, vous avez à votre place un rôle à jouer d'aller chercher les autres brebis, de les exciter, de les mordre un peu comme les chiens de meute, si vous voulez, de brebis vous devenez chien de berger, et vous rameutez les brebis, vous les mettez en contact de vos prêtres. C'est un travail salutaire, c'est un travail qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui où, eh bien, malheureusement, nos chers contemporains ont de moins en moins l'occasion de pousser la porte d'une église et de s'adresser directement à un pasteur. Voyez que vous et moi avons du pain sur la planche. Heureusement, à chaque fois que le Seigneur nous confie une mission, il nous donne les moyens d'accomplir cette mission et des moyens suréminents. N'ayons donc pas peur. Vous et moi, nous allons constituer une sacrée équipe de choc. Vous, en troupeau exemplaire, et moi, demain, s'il plaît à Dieu, et grâce à vos prières, à votre accueil et à vos exigences, je pourrai peut-être devenir un pasteur plus conforme au cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.